le 7-9 de France Inter. Vous êtes 3 900 000 auditeurs à écouter chaque matin la première matinale de France.
Et l'invité du grand entretien ce matin est économiste. Les questions de Léa Salamé dans une dizaine de minutes. Vous avez la parole au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application France Inter. Bonjour Thomas Piketty.
Bonjour.
Hier, un mini-sommet à Bruxelles réunissait 16 pays membres de l'Union sur la question des migrants. L'Europe reste divisée entre les pays qui disent vouloir préserver les méthodes classiques de la solidarité européenne et du droit international. En face, les pays qui souhaitent s'en affranchir. L'Italie notamment est la dernière en date. Quel regard l'économiste que vous êtes porte sur la crise des migrants ?
Moi je vois d'abord un immense gâchis parce que l'Europe, à cause de sa gestion absolument catastrophique de la crise de 2008, s'est retrouvée avec une montée du chômage très forte en Europe, notamment en Europe du Sud, au moment même où l'Europe aurait dû, compte tenu de l'évolution de la situation géopolitique en Syrie notamment, être plutôt un peu plus ouverte. Et en fait, l'Europe a fermé brutalement ses frontières à ce moment-là, alors que l'Europe aurait tout à fait les moyens d'être plus ouverte avec une politique qui soit plus tournée vers l'avenir, d'investissement dans la croissance, dans sa jeunesse. Et je voudrais rappeler très simplement que entre 2000 et 2008, ou même entre 2000 et 2010, si on prend toute cette décennie-là, on avait des entrées de migrants dans l'Europe qui étaient de quasiment 1,5 million par an en flux net des flux sortants, alors que depuis 2010, y compris en comptant l'année 2015, on est à peine 500 000. Donc ça a été divisé par plus de deux, entre deux et trois. Donc cette théorie d'une déferlante migratoire absolument irrépressible qui dépasse tout, c'est simplement faux. C'est-à-dire que avant la crise, les entrées sur notre continent, parce que notre continent fait 500 millions d'habitants, donc 1 million, il faut remettre les choses en perspective, ça se passait bien. Ça se passait bien dans plusieurs sens. Le chômage diminuait jusqu'en 2007-2008, donc ça veut dire qu'il y avait une capacité de création d'emplois, d'intégration sociale. Et politiquement, ça se passait bien, en tout cas mieux qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'avait pas tous ces mouvements xénophobes qui étaient... Donc là, il y a quand même un gâchis aiguë. Collectif. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire mieux à l'avenir.
Voilà, mais la phase aiguë de la crise aujourd'hui, telle qu'on la connaît, hyper politisée, hyper médiatisée, beaucoup plus brutale, en tout cas institutionnellement que par le passé.
Bien sûr, là on atteint, avec l'arrivée au pouvoir de cette coalition italienne absolument déprimante, on a contribué à fabriquer des monstres. Alors les Italiens l'ont aussi fabriqué un peu tout seul, là il ne s'agit pas de tout mettre sur la tête des autres, mais moi je veux quand même rappeler qu'en 2015, en Grèce, il y avait un gouvernement, Syriza, qui était loin d'être parfait, qui était un gouvernement de gauche radicale, d'extrême gauche. Je ne dis pas qu'il avait un programme parfait surtout, mais il y avait quand même un point important, c'est que c'était un gouvernement de sensibilité internationaliste, c'est-à-dire qui promouvait les valeurs de solidarité vis-à-vis des plus pauvres dans la société, ceux qui étaient victimes du chômage, et vis-à-vis des étrangers, vis-à-vis des migrants. Et c'est pas rien l'internationalisme. On a fait le choix, alors que l'Europe avait promis d'annuler une partie de la dette grecque une fois la reprise commencée, une fois un certain nombre de mesures prises, on a fait le choix de dire non, parce qu'on ne voulait pas que s'étende la vague dite d'extrême gauche en Europe, en particulier en vue des élections espagnoles de 2016. Le résultat, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui avec l'extrême droite au pouvoir. Eh ben, l'extrême droite, c'est beaucoup plus dangereux que l'extrême gauche. Et il faudrait quand même que les dirigeants européens qui ont contribué à fabriquer ça se rendent compte que maintenant, vous avez un gouvernement en Italie dont le seul ciment est la chasse aux étrangers. Parce qu'on en revient à cette question-là. C'est que la seule chose qui les cimente et qui, là, pour le coup, est autorisée par les règlements européens, c'est de laisser des gens errer en pleine mer. Et là, il y a encore un bateau depuis 4 jours dont personne ne sait où il va arriver. Donc, voilà, on a fabriqué
vous dites,
une situation...
On a fabriqué une autre analyse, mais d'après vous, peut-être qu'elle est la même, que ces gouvernements populistes sont en fait l'une des conséquences de la mondialisation économique, dont à tort ou à raison, les peuples ont eu le sentiment de ne pas profiter. Comment, du coup, percevez-vous le désir d'être protégé, qu'on peut entendre très clairement dans le corps électoral d'un certain nombre de pays en Europe, quitte à aller vers le protectionnisme économique et donc culturel, entre guillemets ?
On a besoin de plus de redistribution, de justice sociale, de justice fiscale dans la mondialisation. On a une mondialisation qui produit des inégalités considérables avec des groupes sociaux entiers qui se sentent complètement laissés pour compte et qui ont l'impression, souvent avec raison, qu'il y a un petit nombre d'acteurs économiques extrêmement puissants, de grandes multinationales.
Oui, mais là on a le protectionnisme, on n'a pas la redistribution.
Oui, mais c'est parce qu'on ne propose pas de solution internationaliste de redistribution. Et je pense qu'en fait, les bonnes solutions, c'est pas le protectionnisme, c'est pas la fermeture des frontières. La bonne solution, ce sont des impôts communs sur les plus grandes entreprises, sur les plus hauts revenus, les plus hauts patrimoines, une stratégie surtout d'investissement dans nos universités, dans la formation, dans l'environnement, dans les énergies renouvelables. Les stratégies communes qui marcheraient sont des stratégies de ce type-là. Mais comme on explique aux gens que ce n'est pas possible, qu'on ne peut rien faire de tout ça, oui, beaucoup de personnes se replient. Donc, je pense vraiment le repli identitaire qu'on observe de façon générale est la conséquence d'un manque d'ambition en matière égalitaire. C'est-à-dire que comme on n'a pas d'horizon crédible qui est proposé et que dès que certains essayent de le mettre sur la table, on dit non, vous y croyez pas. Donc ça, c'est le problème de on tape sur la tête de l'extrême gauche, on se retrouve avec l'extrême droite. Donc si vous voulez tuer toute ambition de redistribution et de justice sociale, au lieu de vous appuyer sur des forces qui ont pas toujours des programmes parfaits, moi je suis pas en train de dire que Syriza, Podemos, la France Insoumise, tout ça ont des trucs parfaitement construits.
Oui, mais les citoyens votent comme ils veulent.
Voilà, il faut s'appuyer.
On leur tord pas le bras nécessairement depuis Bruxelles, sauf à...
Il faut au moins essayer de s'appuyer
à donner du carburant à la théorie du complot.
Sur ceux qui expriment au moins une volonté de coopération, une volonté d'internationalisme pour trouver des solutions communes. Et ça, on ne l'a pas fait en Europe ces dernières années. Mais on peut le faire pour la suite, j'y reviens.
Dans ce contexte, précisément, Thomas Piketty, quelle est la valeur, l'efficacité possible des annonces conjointes de la France et de l'Allemagne sur un budget de la zone euro? Est-ce que ça, c'est l'un des outils d'internationalisation dont vous parlez?
Le problème, c'est que là, les annonces qui ont été faites par Macron et Merkel sont en fait extrêmement floues et manquent terriblement d'ambition. C'est-à-dire qu'on nous a parlé d'un budget de la zone euro à l'horizon 2021, sauf qu'il est dit d'emblée qu'il doit être minuscule, c'est-à-dire moins de 1% du PIB européen et peut-être même 0,1 ou 0,2%. Enfin, on parle de 10, 20, 30 milliards. 1% du PIB européen, c'est déjà plus de 100 milliards. Donc là, on est sur des sommes très petites par rapport au budget existant. Surtout, on ne dit rien sur deux questions clés qui sont celles des impôts pour financer ce budget et celles de la démocratie. C'est-à-dire, donc si vous avez un budget...
Sur les impôts déjà, qui devrait payer d'après vous?
D'abord, si vous avez un budget qui est sans impôts et sans assemblée pour l'adopter, c'est pas un budget. Vous voyez, c'est quand même, on se paye de mots. On dit... Alors, sur les impôts, là, je pense que là, il faut être clair. Il faut enfin que l'Europe puisse apparaître de façon crédible comme synonyme de redistribution, de justice fiscale dans l'esprit des peuples qui le composent. Et vous pouvez admettre qu'on en est loin. C'est-à-dire, c'est pas du tout comme ça qu'est perçue l'Europe. Alors que dans le fond, si on voulait aujourd'hui pouvoir vraiment imposer les bénéfices des plus grandes sociétés, également imposer les plus hauts revenus individuels, les plus hauts patrimoines individuels, qui sont les premiers, dans le fond, à bénéficier de l'intégration économique européenne, il faudrait avoir des impôts communs sur ces trois types d'impôts, qui sont impôts sur les bénéfices de sociétés, impôts sur les plus hauts revenus, impôts sur les plus hauts patrimoines. Et ça permettrait de décharger le reste des contribuables, parce que l'objectif de ces nouvelles rentrées fiscales, pour moi, il y en a deux. Il y en a un qui est de décharger ceux qui actuellement font face toujours à des augmentations de TVA, de cotisations, de CSG,
de contributions. À ce taux d'impôt et à ce prélèvement sur les plus grandes fortunes à l'échelle européenne.
Ou les plus hauts revenus.
Vous savez, vous y croyez?
Oui, j'y crois. Et je vais vous dire pourquoi.
Pour quand?
Alors attendez, d'abord, il faut parler de la façon dont justement ça peut être adopté. La raison pour laquelle actuellement rien de tout ça est adopté, c'est parce que chaque pays joue dans son coin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où chaque assemblée nationale, chaque Bundestag joue dans son coin et essaye d'attirer les plus hauts investissements, les contribuables qui rapportent le plus d'argent, évidemment chacun, on est dans un jeu de dumping et c'est l'argument éternel pour sans cesse réduire les prélèvements sur les plus hauts revenus. Mais il suffirait qu'on décide ça au niveau commun, donc tout l'enjeu, il est politique. C'est-à-dire qu'il faut se donner, moi j'avais proposé avec Stéphanie Hennette, Antoine Vauchez, Guillaume Sacrist, un traité de démocratisation de l'Europe dans lequel on aura une assemblée européenne qui s'appuierait pour l'essentiel, en partie sur les députés du Parlement européen actuel, mais pour l'essentiel sur les députés issus du Bundestag, de l'Assemblée nationale, parce qu'on voit que à chaque fois qu'il s'agit d'engager les contribuables des différents pays, ce sont ces assemblées qui sont convoquées. Et on ne va pas comme ça, d'un seul coup, vider de leur contenu les élections législatives nationales. Il faut au contraire obliger les candidats dans ces élections législatives nationales à dire ce qu'ils veulent faire dans cette assemblée, dont ces impôts communs. Pourquoi j'y crois? Je vais vous dire une raison très simple. Les États-Unis d'Amérique ne sont pas réputés par leur goût immodéré pour l'égalité, la redistribution. Mais comme ils décident au niveau fédéral de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu. Mmh. Ils ont un impôt sur les sociétés, vous savez, qui est, jusqu'à Trump, hein, là c'est en train de changer avec Trump, mais jusqu'à Trump, de 35% au niveau fédéral, plus de 15% au niveau des États. Et autrement dit, c'est l'Europe qui a mené le bal vers toujours plus de dumping fiscal. Pourquoi ? Parce qu'on a cette division politique. Donc il y a rien d'utopique là-dedans. Simplement, il faut accepter de discuter de comment on change les règles politiques et la façon dont on prend les décisions en Europe.
Deux citations, une question. Pierre Moscovici, la crise grecque s'achève cette nuit. C'était vendredi. Alexis Tsipras, pardon. L'austérité va peu à peu être remplacée par la justice sociale. La Grèce est-elle tirée d'affaire, selon vous, Thomas Piketty ?
Avec 25% de la jeunesse qui a quitté le pays, un taux de chômage qui, malgré ça, continue d'être de plus de 20% en Grèce, plus de 40% pour la jeunesse, c'est quand même difficile de dire on a tout réussi en Grèce.
Donc les deux se disent des contre-vérités, voire des mensonges.
C'est-à-dire on a tous envie d'être optimiste pour la suite, et c'est vrai que la crise est moins aiguë qu'en 2015, mais en vérité, on a toujours pas redressé le niveau d'activité économique en Grèce, parce qu'on demande à la Grèce aujourd'hui de repayer des sommes qui sont très excessives, beaucoup trop importantes. Je veux juste rappeler une chose. La Grèce actuellement est dans une situation, comme on dit en finances publiques, d'excédent budgétaire de l'ordre de 4 points de PIB. Ça veut dire que les Grecs payent en impôts l'équivalent de 4 points de produit intérieur brut de plus que ce qu'ils reçoivent en dépenses. Juste le budget de l'enseignement supérieur en France, c'est entre 0,5 et 1 point de PIB. Donc c'est beaucoup, payer 4 points de PIB de plus en impôts que ce qu'on reçoit en dépenses. C'est très excessif, c'est-à-dire que c'est normal de leur demander d'être en léger excédent. Il ne s'agit plus là de se réendetter, mais un excédent aussi gigantesque, alors qu'il faudrait investir dans les infrastructures, investir pour créer des emplois. Là, on a eu une stratégie vis-à-vis de l'Europe du Sud qui pour finir, ne fonctionne absolument pas.
Thomas Piketty au micro de France Inter, 8h34. Léa Salamé.
Thomas Piketty, dans le journal du dimanche hier, Jean Tirole, prix Nobel d'économie, donnait un satisfecit global à Emmanuel Macron sur sa politique économique, approuvant la loi travail, le projet de loi formation, la réforme de la SNCF, et expliquant qu'il a raison, Macron, d'aller très vite. Et vous, un an après son arrivée au pouvoir, comment jugez-vous la politique économique d'Emmanuel Macron ?
Écoutez, je pense qu'il a très mal dépensé notre argent, c'est-à-dire qu'aller mettre 5 milliards d'euros par an sur des cadeaux fiscaux sur les 1% des plus fortunés dans le pays, alors que le budget de l'enseignement supérieur stagne, qu'on a eu une augmentation de l'étudiant de 20%, mais que le budget par étudiant lui a diminué de plus de 10%, c'est pas la bonne façon de préparer l'avenir. Mais moi, ma plus grande déception, elle est pas là. Ma plus grande déception, et je vais y revenir, elle est sur l'Europe. Parce que là, on a une théorie actuellement qu'on entend partout, dans les médias français en particulier, qui consiste à dire notre président a fait des propositions merveilleuses au reste de l'Europe, mais malheureusement, c'est terrible, pas de chance, nos voisins s'en rendent pas compte, et en particulier l'Allemagne n'est pas en état d'y répondre, comme c'est dommage, mais nous, on a quand même fait notre part du job, c'est de la faute
et
des
c'est
autres.
C'est faux de dire
alors,
ça.
Alors, cette théorie, moi, je trouve qu'elle est vraiment insupportable, parce que je pense qu'en vérité, si on regarde les choses de près, il n'y a pas eu de propositions françaises. C'est plus précisément les propositions sur le budget de la zone euro dont on parlait tout à l'heure, sont tellement flous que justement, je pense que comme on ne dit rien de précis sur quels impôts, quels montants, quelle assemblée, pour c'est ça qui au contraire a nourri beaucoup de discours nationalistes en Europe du Nord, y compris en Allemagne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ne dites rien de précis, forcément, vous avez toute cette théorie.
Pardon, non,
vous...
le discours de la Sorbonne,
mais y a
il
rien,
annonce
y a pas, mais un
parquet
sans
européen,
un budget
de la zone euro.
Alors allons-y, Léa Salamé, on va faire un test. Dites-moi la composition de cette assemblée pour voter le budget. Parce que c'est bien d'avoir un budget, mais si on ne sait pas quelle est l'assemblée qui le vote...
Voulez-vous que l'Europe avance s'il n'y a pas de vision, déjà ? S'il n'y a pas une proposition sur la table ?
Mais c'est pas une vision de quand vous n'êtes pas capable d'aligner trois lignes. Non, et qu'ils ne le disent pas dans chaque discours, je veux bien, mais il faudrait quand même qu'il y ait quelqu'un au niveau du gouvernement français ou un journaliste pour les aider, je ne sais pas, leur poser des questions par exemple, qui permettent d'aligner trois lignes. Je ne demande pas des pages et des pages, trois lignes décrivant juste les impôts qui sont susceptibles de devenir européens, les assemblées susceptibles de les adopter. Sinon, on est complètement dans l'incantatoire. Et surtout, ça nourrit cette peur, alors pour le coup, elle aussi complètement irrationnelle, des transferts entre pays. Si vous voyez, le gros argument d'une partie des responsables politiques allemands ou hollandais, c'est de dire, bon, en fait, le problème de l'Europe, c'est que les gens du Sud, en gros, sont paresseux, ne travaillent pas assez, et en plus, ils veulent nous piquer notre argent. Donc, vous vous rendez compte, avec une présentation des choses comme ça, c'est difficile de mobiliser les gens. Donc, je pense qu'au point où on en est, ce budget de la zone euro. Non seulement il faudrait préciser les impôts, j'avais parlé tout à l'heure de quelques impôts, il faudrait préciser la composition de l'Assemblée pour l'adopter, mais il faudrait aussi mettre une règle très stricte pour qu'il n'y ait pas de transfert entre pays. C'est-à-dire de dire, écoutez, chaque pays, à travers l'impôt sur la société, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur le patrimoine, va contribuer certains montants, eh bien il devra recevoir en dépenses le même montant à 0,1% près du PIB, parce que dans le fond, ce n'est pas le sujet. C'est-à-dire ceux qui veulent faire croire que le problème, c'est de se piquer de l'argent aux uns aux autres, entre l'Allemagne, la Grèce, la Suisse, ce sont des nationalistes autant que les gens du Front National, de la Ligue en Italie. C'est-à-dire, le nationalisme, il est pas seulement au parti extrême droite. Il est dans tous ces discours politiques qui consistent à dire l'Europe, c'est un truc où les uns et les autres veulent se piquer leur argent. Parce que le problème, c'est pas de transférer de l'argent entre pays, c'est de réduire les inégalités à l'intérieur des pays.
Thomas, oui, mais c'est très différent. J'entends que vous brûlez de parler.
On transforme un projet qui devrait être un projet de solidarité, d'investissement dans l'avenir, en un projet de pays contre pays. Et c'est ça qui fait qu'évidemment, ça ne peut pas marcher.
Pardon de vous ramener à la France, mais j'aimerais bien quand même vous entendre sur la France. Vous avez beaucoup parlé de l'Europe ce matin avec Nicolas. Mais
c'est important.
J'entends bien, mais c'est capital même. Mais il y a deux, trois questions quand même qui concernent la France. Dire que les minima sociaux coûtent un pognon de dingue et que les pauvres restent pauvres. Au-delà de la forme et de la transgression voulue par le président de la République, est-ce que c'est forcément faux de dire qu'il y a trop d'argent dans les prestations sociales?
Qu'est-ce que je vous dis, Léa Salamé ? Je peux vous redire que Emmanuel Macron, lorsqu'il dépense 5 milliards d'euros pour une petite minorité de personnes qui ont contribué à financer sa campagne, et qu'ensuite il dit tiens, on va récupérer de l'argent sur le dos des plus pauvres, on va récupérer l'argent en vendant Aéroport de Paris qui va rapporter 8 milliards, mais dans ce cas-là, il fallait mieux leur transférer la propriété gratuitement. Enfin, vous commencez par perdre 6 milliards d'euros par an sur les plus riches, puis après, vous faites un plan de privatisation pour récupérer le même argent que vous venez de dépenser.
Donc pour vous, le péché d'origine, c'est l'ISF ?
C'est l'IFTF et l'ensemble d'une politique qui est anti-sociale, disons, qui est complètement centrée sur les groupes les plus riches et aussi sur les groupes les plus âgés. Hein, parce que l'ISF, on n'est pas très jeune quand on paye l'ISF, alors que quand on s'entasse sur les bancs d'université, vous voyez, l'avenir, il est là. Moi, c'est surtout ça le problème, c'est qu'il prétend être pragmatique, il prétend s'occuper d'innovation, mais c'est de la blague. Lorsqu'on a, comme ça, des millions d'étudiants qui s'entassent sur des bancs d'université sans moyens adéquats, c'est pas comme ça qu'on prépare la France pour le 21e siècle.
Allez, question des auditeurs de France Inter sur l'application, c'est Laure qui vous demande, Thomas Piketty, la chose suivante, 2 années après le vote des Britanniques pour sortir de l'Europe, le Brexit a-t-il eu des effets positifs ou que des effets négatifs ?
Je pense que les Britanniques se rendent compte qu'ils ont dit non à quelque chose, mais ils ne savent pas à quoi ils ont dit oui. Et c'est ça le problème de ce référendum, c'est que ils ont besoin d'un nouvel accord avec l'Europe, mais personne ne sait pourquoi ils ont voté. Est-ce qu'ils ont voté pour conserver uniquement la liberté commerciale, la liberté de circulation, jusqu'à quel point ils n'ont pas voté sur un projet. Et c'est très triste que ce pays qui a cette grande tradition parlementaire en arrive à se saborder comme ça sur un vote oui non. Mais
tout le monde sera perdant. Tout le monde sera perdant.
Bien sûr, tout le monde sera perdant. Et tout le monde sera perdant. Il faudra retrouver une façon de recréer quelque chose de collectif avec le Royaume-Uni. Mais la leçon à tirer quand même pour nous maintenant, c'est que maintenant, on ne peut plus faire semblant qu'on ne sait pas. Parce que si quelqu'un comme Cameron, hérité du grand parti conservateur britannique, a été capable d'envoyer son pays dans une histoire pareille, est-ce que vous ne croyez pas qu'un dirigeant italien, tel que ceux qu'on a actuellement, peut, à la faveur d'une crise, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, se lancer comme ça? Vous savez, moi, je pense qu'une des leçons, malheureusement, des élections italiennes là, c'est qu'on voit qu'il y a une bonne partie des Italiens, et pas seulement des classes moyennes ou populaires, aussi une partie des Italiens qui en ont marre de la France et de l'Allemagne, pour résumer. C'est-à-dire, moi, je vois les conditions d'un divorce se créer entre l'Europe du Sud et l'Europe du Nord, en mettant la France dans l'Europe du Nord, parce que vous savez, la France, on aime bien tout le temps se décharger sur l'Allemagne, en disant, nous, on veut faire plein de grandes choses pour l'Europe, c'est de la faute des Allemands, on n'y arrive pas. Mais la vérité, c'est que la France, comme l'Allemagne, si elles n'ont pas fait grand-chose vis-à-vis de l'Europe du Sud, c'est parce qu'elles se sentent du bon côté de la barrière, et je vois les conditions d'un divorce se créer, et là, c'est quand même extrêmement grave. Et donc, cette façon dont on se contente en se disant, ah, nous, on a vraiment fait tout ce qu'on pouvait, on a tout proposé, c'est de la faute de ces barbares, je vois les conditions d'un divorce qui se crée, l'exemple du Brexit montre malheureusement que ça peut aller très loin.
Paul, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue, on vous écoute, Paul.
Oui, bonjour, monsieur Piketty. Une question sur la problématique de la dette. Brièvement, que pensez-vous du problème de la renationalisation de la dette, du fait que 60% de notre dette est entre les mains des marchés? Est-ce qu'il n'y a pas des mécanismes financiers qui permettraient justement de renationaliser cette dette, malgré le fait que vous soyez plutôt partisan d'emprunt à l'échelon européen?
Merci Paul pour cette question. Thomas Piketty vous répond.
Je pense d'abord que quand on a un niveau d'endettement public comme on l'a aujourd'hui en Europe, c'est-à-dire grosso modo autour de 100% du PIB, une année de PIB en endettement public, on a déjà vu ce genre de situation dans l'histoire assez souvent, hein, au 19e siècle, au 20e siècle, c'est arrivé assez souvent. Mais la leçon générale, c'est que c'est très difficile de s'en sortir simplement en accumulant des petits excédents budgétaires chaque année, parce qu'il faudrait que ça dure des dizaines d'années. Et donc, dans l'histoire, ce qu'on constate, hein, c'est factuel, c'est que quand on a atteint ce genre de niveau d'endettement, généralement on s'en sort par des mesures plus drastiques qui, dans certains cas, ont pris la forme de l'inflation, mais ça fait plein d'autres dégâts, parce que ça détruit plein de petites épargnes qui sont pas forcément les épargnes les plus fortunées. On a fait des annulations de dettes, on a repoussé dans le temps des dettes, notamment l'Europe dans les années 50, notamment la dette extérieure allemande a été repoussée et finalement a été annulée dans les années 90. Aujourd'hui, la question c'est, est-ce que l'Europe est capable d'organiser ça de façon apaisée? Si elle n'est pas capable, il y a d'autres façons de le faire, qui sont évidemment la sortie de l'euro, de l'inflation sur la lire en Italie. Et je veux dire simplement qu'à un moment, si on n'est pas capable, de façon apaisée, au moins de mettre un moratoire, c'est-à-dire de dire là, tant qu'on n'a pas retrouvé un niveau d'emploi, qu'on n'a pas réduit le chômage, on ne peut pas repayer des excédents primaires comme ceux qui sont repayés actuellement en Italie, en Grèce, et il faut investir, alors... Oui, il y a ce risque de renationalisation. Mmh. Mais je pense que ce n'est pas la meilleure solution, parce qu'au passage, la renationalisation créera des tensions nationales sur les questions d'immigrés, évidemment, mais plus généralement de tensions entre pays extrêmement violentes, dont on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Et dans le fond, ce n'est pas le bon échelon pour réguler les marchés financiers, le capitalisme mondialisé. Donc je pense qu'il faut éviter cette solution chaotique et nationaliste de régler les problèmes.
20 minutes, c'était trop court, Thomas Piketty. La prochaine fois, on vous invite de 7h à 9h.
Désolé.
Comme ça, vous pourrez parler 2 heures. Merci en tout cas d'être venu ce matin dans le 7-9. Le Carrefour est à suivre. Médias, politique, revue de presse.